Bonjour, bienvenue sur le réseau FM+. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même. Émission à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé un très agréable été. Et oui, c'est l'heure de la rentrée et beaucoup d'entre vous peinent à reprendre le rythme effréné de leur vie professionnelle et ou familiale. Alors pour ce mois d'octobre, il m'a semblé intéressant de vous donner des pistes qui vous aideront à affronter les épreuves, les stress, le mal-être ou les tracas au quotidien. Et pour cela, eh bien, j'ai invité Cécile Neuville, spécialiste en psychologie positive à Montpellier. Bonjour Cécile.
Bonjour et merci beaucoup de cette invitation.
Merci à vous. Alors, vous êtes cofondatrice de l'association Plus Zen la vie, dont l'objet est de promouvoir le bien-être pour tous et sous toutes ses formes. Vous avez ouvert en particulier un lieu de coworking de professionnels du bien-être, la Maison du bien-être à Montpellier. Vous animez régulièrement des conférences sur les sujets liés à la psychologie positive, à la confiance en soi, à l'équilibre de vie, à l'éducation positive, au management positif ou au lâcher prise. Et j'ai pas tout cité, hein,
c'est ça.
Mais et vous êtes aussi auteur d'ouvrages, bien sûr, sur ce sujet.
Oui.
Vous n'arrêtez pas.
Effectivement, au-delà d'un métier, c'est une véritable passion. Hein. Mon cœur de métier, d'ailleurs, c'est psychologue, qui n'a même pas été cité, parce que derrière, finalement, c'est ça que j'ai envie de transmettre. C'est d'aider les gens à aller mieux, que ça soit par l'intermédiaire d'un lieu, par des livres, par des conférences ou par des formations, et grâce à la psychologie positive en particulier.
Eh oui. Alors, quel est votre parcours professionnel, Cécile ?
Alors, bah déjà, j'ai fait ma formation de psychologue et j'ai validé mon titre de psychologue il y a quelques années déjà, hein, ça commence à passer. Et du coup, bah, j'ai commencé vraiment à travailler dans l'insertion professionnelle. Au départ, j'ai accompagné les publics en difficulté, donc les bénéficiaires du RMI, voilà, des cadres, des demandeurs d'emploi. Et puis petit à petit, je me suis mise à accompagner particulièrement le public jeune parce que j'ai trouvé que c'était plus intéressant de s'intéresser à la source pour pouvoir leur donner les clés et la confiance pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet de vie professionnelle. Et puis, bah, ce n'était pas encore assez. J'ai voulu maintenant aller plus loin et travailler vraiment sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et vraiment, je me suis mis en activité libérale de psychologue à cette époque-là. Et là aussi, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années. Hein. Voilà. Donc le parcours a commencé vraiment par cet accompagnement en tant que psychologue, où là, j'ai découvert la psychologie positive, c'est-à-dire accompagner les gens non pas à régler tous leurs problèmes, mais à révéler leur potentiel pour profiter au mieux de leur vie. Voilà.
Alors, on va développer tout ça durant ces deux émissions d'octobre. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer la psychologie positive ?
Eh bien, tout simplement parce que je suis une grande autodidacte. J'aime chercher, j'aime apprendre. Et je suis toujours à l'affût des nouveautés en termes de livres, de conférences. Et donc, je ne trouvais pas mon courant en tant que psychologue. J'arrivais pas à me positionner. Donc, j'étais fouillée plus loin. Et grâce à Internet, cette nouvelle technologie merveilleuse, j'ai découvert vraiment ce courant de la psychologie positive aux États-Unis. Donc, par hasard, en surfant sur Internet. Ça n'existait absolument pas en France à l'époque. Et du coup, bah, je me suis portée un petit peu porte-parole pour que ça se fasse connaître en France. J'ai commencé à écrire des articles dessus, j'ai traduit des articles anglais. Voilà. Et plus je m'en informais, moi, plus je partageais au public, plus je voyais que ça prenait, que c'était efficace, plus moi, je l'appliquais en tant que psychologue et dans ma vie. Et plus j'étais persuadée que c'était une révélation qu'il fallait absolument partager au plus grand nombre en France, autant qu'aux États-Unis. Et voir dans le monde entier.
Oui. Alors, vous vous présentez aussi comme rêveuse et joueuse.
Oui.
Alors, ça veut dire quoi tout ça ? Dites-nous tout.
Alors, en fait, je suis vraiment une rêveuse dans le sens où je suis une grande optimiste. Hein. En psychologie positive, on parle beaucoup de l'optimisme, et je suis vraiment une véritable optimiste. Je crois qu'il y en a très peu, des autant que moi. C'est-à-dire que je crois vraiment en quelque chose de positif à venir. Et je rêve vraiment de grandes choses. Donc, à mon niveau, dans ma vie, mais aussi à travers le monde. Donc, quand je dis que je rêve, c'est que je rêve vraiment d'une vie géniale pour moi, déjà, pour ma famille, mes proches, etc. Mais j'ai aussi envie d'un monde encore meilleur. Donc, je rêve de changer, par exemple, l'éducation nationale, d'y contribuer avec la psychologie positive. Je rêve de changer les entreprises. Je rêve de changer le monde, quoi. En tout cas, d'y contribuer et d'aider d'autres gens à le faire aussi. D'où l'idée de former d'autres personnes aussi pour que ça se relaie. et voilà, diffuser au plus grand nombre.
D'accord, ça c'est pour le côté rêveuse oui, et le côté joueuse.
Et le côté joueuse, ben, j'ai une phrase qui m'accompagne depuis très longtemps. Pour moi, il est inutile de travailler pour travailler. Travailler sérieusement sans se prendre au sérieux est une de mes devises au quotidien. Vivre sérieusement sans se prendre au sérieux aussi, au-delà du travail. Et donc j'aime jouer sous toutes ses formes. J'aime les challenges, j'aime les défis, j'aime prendre du plaisir. J'aime jouer en équipe, j'aime la collaboration. Voilà, donc je crée des jeux, beaucoup, que ce soit en formation, des jeux thérapeutiques, des jeux ludiques, voilà, sous toutes ces formes, et même sur Internet, enfin voilà, des jeux sous toutes ces formes. Plus on s'amuse, plus on apprend, plus on agit, plus on est efficace.
Mmh. Alors, vous avez aussi organisé plusieurs regroupements nationaux du bonheur.
Et oui.
Alors ça, c'est génial. Votre slogan, révélons ensemble votre potentiel. Mmh. Alors, est-ce que vous voulez nous présenter ce regroupement national du bonheur
hein? Oui, ben, du coup, en tant que psychologue au départ, j'accompagnais des gens en individuel, et puis petit à petit, j'avais beaucoup de demandes pour accompagner en groupe. Et avec mon associé, on a commencé à animer des journées qu'on appelait au départ des journées positives à travers toute la France. Et petit à petit, on est revenu sur Montpellier, se centrer sur Montpellier. On a créé le premier atelier du bonheur à Montpellier en mai 2012, de mémoire. Et de là, en fait, d'autres personnes dans toute la France ont commencé à nous dire « Mais est-ce qu'on pourrait, nous aussi, avoir des ateliers du bonheur ailleurs ?» Et là, je leur ai dit « Bah oui, mais alors moi, je ne me vois plus refaire le tour de la France partout pour 3 heures d'atelier, c'est pas possible. » Du coup, c'est venu vraiment une demande de ces personnes-là qui nous ont demandé « Est-ce que vous pouvez nous former, nous, pour qu'on puisse animer ces ateliers ?» Alors on s'est dit ok, et on a créé une première formation en ligne pour que ça puisse se répandre là encore une fois au plus grand monde. On a formé les premières animatrices du bonheur. Rien que le premier été, on avait 40 animatrices du bonheur formées qui ont animé des ateliers dès septembre d'après. Et de là, bah, nous on voulait regrouper ces animatrices du bonheur au moins une fois par an. Donc on a créé le regroupement national du bonheur au départ pour regrouper ces animatrices qui travaillent chacune de leur côté mais dans une même dynamique. Mais aussi pour passer nous des moments de bonheur tous ensemble avec des gens qui ont envie d'être heureux, qui l'assument, qui ne remettent pas en question, qui veulent profiter des instants simples. Et on a invité des gens à l'extérieur à se joindre aussi à nous. Donc c'est devenu un véritable regroupement national du bonheur dans le sud, à Montpellier, au soleil, avant l'été. Puis on en a fait déjà plusieurs, sur plusieurs années. Voilà, chaque été, on essaye d'organiser ça. Et ça va jusqu'à 100, 200 personnes selon les années.
Itinéraire Santé, c'est sur le réseau FM+, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h. Alors aujourd'hui, enfin ce mois d'octobre, eh bien nous parlons de la psychologie positive, du bonheur, je trouve ça merveilleux. Et puis voilà, c'est bien pour démarrer la rentrée. Et je pense que de façon générale, enfin beaucoup de gens ont besoin d'avoir ces beaux messages et d'avoir ces outils. Hein. Alors vous parliez du bonheur, qu'est-ce que le bonheur, Cécile Neuville? ville ?
C'est une grande question.
Et oui.
C'est une question que chacun peut se poser, puisque finalement, il n'y a pas un bonheur absolu, mais vraiment une façon de vivre chacun son bonheur. Par contre, d'après la science, et on verra du coup que la psychologie positive s'appuie sur de la science, le bonheur s'appuie particulièrement sur deux grands aspects. La notion de plaisir, donc le plaisir de l'instant présent, le ici et maintenant et la pleine conscience de l'instant présent, mais aussi la vision à long terme et le sens que l'on donne à ce qu'on fait dans l'avenir. C'est-à-dire que par exemple, si je suis dans une petite colline avec des petites fleurs au soleil et tout ça, c'est merveilleux, on pourrait dire que c'est le bonheur, sauf que si ce même jour, mon mari est en prison et que ma mère est à la veille de sa mort, c'est difficile d'être heureux. À l'inverse, je peux aussi m'engager dans une cause volontaire, vraiment y mettre beaucoup de cœur et de sens, mais si pour ça je dois me lever à 3h du matin tous les jours et me coucher à 22h, porter des trucs lourds et souffrir physiquement, c'est pas non plus le bonheur. Donc le bonheur, c'est vraiment un équilibre entre le plaisir de chaque instant, donc trouver vraiment du plaisir avec plein d'émotions positives à chaque instant, et y trouver derrière un intérêt, du sens et quelque chose de plus grand que nous-mêmes et le bien-être de nos proches autour, évidemment.
Et oui. Alors, qu'est-ce que la psychologie positive ?
Et voilà, justement, c'est vraiment une question qu'on se pose souvent, le lien entre la psychologie positive, la pensée positive, le bonheur, tout ça, c'est un petit peu mélangé. Oui. La psychologie positive en elle-même, c'est vraiment une science. Donc, c'est une science qui s'appuie sur des recherches en laboratoire. C'est une science humaine, hein, donc on n'est pas en train de faire des expériences sur des êtres humains, mais vraiment des expériences humaines. Et là, en fait, c'est vraiment une science qui s'intéresse à ce qui fonctionne. Jusqu'à présent, la psychologie s'intéressait aux causes des dysfonctionnements, c'est-à-dire par exemple pourquoi les personnes sont dépressives. Donc on invitait des personnes dépressives à venir, on leur posait toute une batterie de questionnaires, on cherchait les points communs et puis on essayait de trouver leurs points communs, les origines de cette dépression. Et puis du coup, Martin Seligman, qui est le grand père fondateur de la psychologie positive aux États-Unis, a fini, après plusieurs étapes dans sa vie, par se poser la question opposée, c'est-à-dire mais alors si on invitait à l'inverse des personnes qui sont épanouies, heureuses, confiantes, solides, des enfants qui réussissent à l'école, des couples qui marchent, des gens qui vivent jusqu'à 150 ans. Enfin bon, j'exagère.
Là, vous exagérez, oui.
Voilà, on s'intéresse en tout cas à tous ces cas exceptionnels ou en tout cas des cas fréquents de bonheur, de bien-être, et on s'intéresse à leurs points communs et au pourquoi. Et de là, on en ressort des traitements possibles pour pouvoir multiplier son bonheur plutôt que pour pouvoir diminuer sa dépression, voilà,
d'accord,
si on devait résumer.
D'accord, mais donc justement, c'est intéressant, qu'est-ce qui a été, après ces expériences, qu'est-ce qui a été prouvé, démontré, enfin.
Alors du coup, alors là il y en a plein, mais on va dire dans les grandes lignes et par rapport au bonheur particulièrement, sur des batteries données dans le monde entier, donc pas que en France ou que aux États-Unis, donc tout pays confondu, donc sur plus de 100 000 personnes, c'est des échantillons énormes, hein, donc c'est pas des petits résultats. Les grands points communs entre les personnes les plus heureuses qu'on ne retrouve pas chez les personnes qui sont les moins heureuses, hein, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt. Il faut bien que ça soit dissocié, c'est qu'elles ont justement un grand optimisme, donc ça c'est déjà un des facteurs clés. Elles ont des forces de caractère très communes, donc par exemple elles sont très curieuses, elles aiment les gens, elles aiment apprendre. Il y a une forme de spiritualité, donc avec chacun sa façon, hein, une croyance en quelque chose de plus grand. Voilà, il y a la capacité à pardonner. Ils ont référencé jusqu'à 24 forces de caractère qu'on retrouve chez les personnes les plus heureuses. Et en termes d'action, en termes de comportement, si on devait aller plus loin, ce sont des personnes qui souvent ont des projets de vie, des projets professionnels ou en tout cas des objectifs, mais qui sont aussi capables de vivre dans l'instant présent, ce qui rejoint la définition du bonheur dont on parlait tout à l'heure. Donc des personnes qui savent vivre en pleine conscience, mais qui savent aussi se projeter et avoir une vision de leur propre avenir ou de l'avenir en général.
D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des différences culturelles dans les niveaux de bien-être psychologique ?
Oui. Alors, notamment, par exemple, entre les pays asiatiques et les pays occidentaux, on va dire, la notion de bien-être subjectif est un petit peu différente. Et donc, nous, notamment, on a un bien-être subjectif qui est un peu plus individualiste, donc centré sur soi. Alors qu'en Asie, c'est un bien-être beaucoup plus collectif. C'est-à-dire que... à défaut du bien-être individuel aussi, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. Il y en a un qui est plus vers soi, l'autre plus vers l'autre. Mais par exemple, les petits-enfants vont aller à l'école et vont travailler pour leur famille avant tout, et pas pour eux. Alors que nous, on va vraiment travailler pour avoir nos diplômes, etc., pour pouvoir avoir une carrière plus pour soi. Donc oui, il y a quand même une notion de bonheur qui n'est pas la même chose.
C'est culturel.
C'est très culturel. Mais derrière, on en revient au même, c'est le plaisir de l'instinct et le sens qu'il y a, seulement le sens n'est pas le même selon la culture. Et le plaisir de l'instinct n'est pas le même selon les cultures.
Et oui, oui. Alors, vous avez évoqué la pensée positive.
Oui.
Donc voilà, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Quelle est la différence entre psychologie positive et pensée positive?
Alors effectivement, c'est très important parce que justement, la science a étudié la pensée positive. La pensée positive, juste pour remettre le contexte, c'est un courant qui vient de la méthode Coué qui dit « je vais bien, tout va bien, je vais de mieux en mieux, je me regarde dans le miroir, je lève les pouces et je me souris pour me forcer à aller bien ». Ce qui marche très bien dans certaines conditions. Mais en tout cas, la méthode, c'est ça, de conseiller à tout le monde de faire cette répétition tous les matins, tous les soirs, pendant plusieurs jours. Et avec l'idée que derrière, j'irai de mieux en mieux vraiment, que ça va marcher de m'auto-convaincre, c'est de l'auto-suggestion. Seulement, la science, du coup, les chercheurs en psychologie positive ont voulu vérifier pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ils ont fait sur plusieurs échantillons, c'est-à-dire des personnes qui l'ont fait effectivement, suivant à la lettre ou protocole, et après des batteries de tests avant, après, en termes de bien-être et des batteries de tests psychologiques pour voir des points communs ou des points différents. Et du coup, il s'avère que oui, cette méthode est efficace à partir du moment où, et seulement si, la personne avant a suffisamment confiance en elle et d'estime d'elle-même. C'est-à-dire que si j'ai un minimum d'estime de moi, de me dire tous les matins, allez, je vais y arriver, ouais, super, tu vas y arriver, allez, ouais, c'est cool, là, ça va marcher. Par contre, si au départ, je me lève et que je doute de moi et on m'a dit qu'il fallait que je le répète devant le miroir, je vais être dans ce qu'on appelle en psycho, dans une dissonance cognitive et émotionnelle, donc c'est-à-dire que je vais dire quelque chose auquel je ne crois pas et ça va avoir l'effet pervers de me rendre encore moins confiant et donc moins épanoui, donc ça n'aura pas du tout l'effet attendu. Donc attention, les méthodes de pensée positive ou la pensée positive comme on l'entend, c'est-à-dire juste être positif, ça ne fonctionne pas si on n'y croit pas. Donc déjà avant tout c'est d'être bien avec soi, d'être bien en général et à partir de là oui on peut s'amuser à faire plein de trucs dans le positif, ça marchera, ce sera toujours efficace. Par contre si au départ on n'est pas bien avec soi, il faut déjà traiter la problématique pour être un minimum serein.
Alors dans la seconde émission nous développerons plus particulièrement le côté concret de la psychologie positive, les séances etc. Il y a une question aussi, autre chose que j'aimerais comprendre, c'est la ressemblance ou la distinction entre psychologie positive et psychologie humaniste.
Oui, c'est une succession finalement, c'est pas une distinction, c'est la suite logique. C'est-à-dire que dans le courant de la psychologie, dans l'histoire de la psychologie, il y a eu plusieurs courants. On parle de la psychanalyse, etc., avec Freud dans tous les débuts. Puis petit à petit, ça s'est évolué jusqu'à Carl Rogers qui amène une forme de développement, d'accompagnement thérapeutique centré sur la personne et qui commence à évoquer l'idée d'une psychologie plus humaniste, pas centrée sur le problème, mais centrée sur l'épanouissement de la personne. Donc ce qui était comment le début d'une approche de psychologie positive. Mais là où ça devient à un moment donné psychologie positive, c'est le moment où on l'étudie de façon scientifique. C'est-à-dire que la psychologie humaniste est la base de la psychologie positive, la base de recherche de la psychologie positive. Donc ils ont fait émerger par le terrain empirique, donc la vraie vie, par les observations qu'ils ont pu faire, des choses qu'ils avaient envie de développer, donc travailler sur la confiance, c'est venu intuitivement, évidemment. Et puis, des chercheurs ont voulu le valider scientifiquement, et de là, c'est devenu la psychologie positive.
Thank you. Oui, ça jazz sur le réseau FM+. Et donc voilà, nous sommes en compagnie de Céline Neuville pour cette émission itinéraire santé. Cécile, excusez-moi, je savais que j'allais me tromper à un moment ou à un autre.
J'ai l'habitude.
Donc Cécile. Donc spécialiste en psychologie positive à Montpellier. Cécile, quels sont les grands thèmes de la psychologie positive ?
Alors, eh bien, il y a eu beaucoup de recherches effectuées, mais effectivement, si on doit s'intéresser aux plus répandues, aux plus populaires et à celles qui ont eu le plus de résultats, on va s'intéresser justement aux facteurs du bonheur et notamment à ce qui favorise le bonheur en termes de vie agréable. Donc, tout ce qui est lié aux émotions positives, il y a énormément d'informations sur les émotions positives et notamment, par exemple, l'impact de la gratitude, qui est un courant qu'on entend beaucoup parler. Et là, vraiment, la science appuie à 300% le fait que juste, par exemple, chaque soir, se répéter trois choses qui m'ont vraiment procuré quelque chose d'agréable et pour lequel je ressens de la reconnaissance va vraiment contribuer à mon mieux-être. Donc, le thème de la gratitude est très étudié, par exemple. Mais on a aussi toute la partie une vie engagée. Donc, c'est-à-dire une vie dans laquelle je m'engage à 100%. Et donc, par exemple, la notion de flow. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le flow, c'est, je suis sûre que vous avez tous vécu des moments comme ça. Vous êtes en train de peindre pour des artistes, d'écrire, de chanter, de danser, de faire du sport. Et vous êtes tellement embarqué dans le flow de ce que vous faites que c'est hyper agréable, ça passe super vite. Vous oubliez tout ce qu'il y a autour. Il n'y a plus d'espace-temps, il n'y a plus de peur. On n'est que bien à 100% parce qu'on est engagé à 100%. Dans ce qu'on fait. On est dans le flow. Donc, il y a eu Csikszentmihalyi Csikszent, je serais incapable de vous l'épeler parce que c'est que des ZY et compagnie, qui a vraiment étudié ce qu'on pourrait appeler en français donc le flow. On parle souvent d'expérience optimale. C'est moins joli que le flow. Donc, voilà, ce flow a été très étudié. Donc, comment multiplier ces occasions de vivre des moments de flow pour pouvoir multiplier les occasions de bonheur dans la vie. Donc là, on en a tous, hein, des petits moments à nous. Moi, personnellement, rien que quand je travaille, je suis très souvent dans le flow.
Oui. Ah ben là, moi, je suis complètement d'accord avec vous aussi. Alors, une vie, on peut dire...
Une vie agréable,
pleine
une
de
vie
sens,
engagée et une vie pleine de sens. Voilà.
Et oui.
C'est un autre thème très étudié avec, par exemple, la logothérapie. Donc, c'est vraiment tout ce qui est sur est-ce que j'ai une mission sur cette terre ? Est-ce que si je suis là, c'est pas par hasard ? Qu'est-ce que je vais apporter au monde ou à mes proches ? Travailler vraiment sur le sens des choses, la résilience, toute la capacité à s'adapter aux difficultés pour y trouver du sens, en y trouvant du sens. Donc, il y a toute cette partie-là aussi. On ne nie pas tout ce qui dysfonctionne. C'est-à-dire que, oui, la psychologie positive s'intéresse aux problèmes de la vie aussi, mais sous l'angle de comment ceux qui ont vécu des gros problèmes s'en sont remis le plus et le mieux, en fait, surtout. Donc, on étudie, voilà, les facteurs et la résilience est le principal facteur qui est étudié puisque c'est le point commun de toutes les personnes qui ont vécu des gros traumatismes et qui ont réussi finalement à être heureux. Donc, qui ont trouvé un sens et qui sont engagés par rapport à ça. Par exemple, j'ai eu un accident ou j'ai eu un cancer et puis d'un coup, je deviens représentant d'une association en soutien des femmes qui ont eu le cancer. Ça donne du sens à ma vie et je me sens épanouie finalement parce que engagée dans quelque chose qui a du sens.
Et oui. Alors justement, voilà, j'allais arriver aux exemples.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de sources d'un état de bien-être ?
Oui, alors y a tout ce qui est lié. Alors ça tient à des petits détails. Si on commence vraiment à des choses très concrètes, c'est quand on dit la mindfulness, vous avez sans doute entendu parler. Donc c'est la pleine conscience. Ça devient de plus en plus médiatisé. Donc l'état d'être ici et maintenant et d'apprécier l'état présent. On en parle souvent en état méditatif, mais en fait c'est aussi dans la vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire là, par exemple, je suis avec vous, je suis bien et je suis dans l'instant, je suis présente et je suis bien. Comment favoriser ces états-là ? C'est simplement déjà juste en ayant eu un sourire, j'ai plus de chances après de vivre des instants de pleine conscience positifs. Donc, par exemple, les jours où vous voulez être bien, regardez une petite vidéo d'un chat à la télé, vous savez, sur YouTube, un chat qui ronronne, un bébé qui sourit, ça va vous donner le sourire juste 2 secondes, mais déjà, vous serez plus à même, plus apte, n'importe quoi après, de le vivre en pleine conscience positive derrière.
Pas mal, ce petit truc de regarder un chat.
Ça fait toujours du bien. Et ça, c'est biologique.
Ouais.
Hein,
ouais.
Quand il y a eu vraiment des recherches, quand on se met devant une vidéo avec un chat qui ronronne ou un bébé qui sourit, automatiquement, on libère les hormones de bien-être automatiquement, la seconde.
C'est vrai que c'est génial. Ayez tous un chat chez vous et si vous ne pouvez pas...
Ou faire des câlins avec un chat ou avec des enfants, c'est encore mieux.
C'est le bonheur, c'est le bonheur. Et sinon, vous regardez la vidéo. Alors, est-ce que la psychologie positive, puisque nous ne parlons plus de pensée positive,
oui.
Est-ce qu'elle nécessite un entraînement régulier ?
Alors, c'est conseillé, pourquoi ? Parce que nous sommes qui nous sommes, parce que nous avons vécu tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance, c'est-à-dire beaucoup d'années, selon l'âge que l'on a. Évidemment, on ne s'est pas construit en 5 minutes, on s'est construit au fur et à mesure. Donc du coup, si on veut changer quelque chose en nous, ce n'est pas en un claquement de doigts, c'est petit à petit qu'on évolue. Donc du coup, si on a envie d'aller vers plus de positif, vers plus de bonheur, et changer pour ça soit des fonds de traits de caractère, comme être plus optimiste, ou changer des habitudes, comme se lever le matin et faire un petit peu d'activité sportive pour être de bonne humeur, tout ça va se faire petit à petit, et mieux vaut 5 minutes par jour pendant plusieurs semaines que y passer 3 jours à fond et après se dire bon bah voilà, ça y est, j'ai fait mon truc et c'est parti. Ça aura beaucoup moins d'efficacité. Donc il vaut mieux la régularité par petite dose et on se transforme petit à petit, on constate, voire même des fois on s'en rend pas compte, c'est les autres qui nous le renvoient, hein. C'est ça qui est très intéressant aussi.
Oui, en fait, enfin, c'est une gymnastique et voilà. Une fois qu'on l'a acquise, ça se fait tout seul. Enfin,
c'est comme le sport, si je veux muscler mes bras, je peux faire pendant 3 jours de la muscu, je vais me faire mal au bras et si j'arrête, les bras vont se relâcher au bout d'un moment. Par contre, si j'en fais 3-5 minutes par jour, tous les jours pendant un mois, au bout d'un moment, mes bras vont se muscler. Et j'aurai envie en plus de continuer, parce que ça sera devenu une habitude.
Et oui. Alors, cette première émission s'est passée trop vite. Hein.
Toujours, quand on parle de bonheur. du bonheur, vous verrez, ça passe vite et c'est agréable.
Alors, on va en faire quelques mots quand même pour la formation pratique.
Oui.
L'adresse peut-être de la Maison du Bien-être.
Oui, nous sommes situés à Montpellier, au 240 rue de la Cadoule, dans le quartier de Montpellier Village, qui porte très bien son nom.
D'accord.
C'est une vraie maison.
Parfait. Votre mail, cecile.neuville@gmail.com.
Tout à fait.
Alors, quelques liens internet, nous en redonnerons la prochaine fois, la prochaine émission. Mais pour vous, là, qu'est-ce que vous voulez nous donner comme lien internet qui
Les deux principaux importants. Liens, donc le lien de mon activité psychologue où vous retrouvez tous mes livres et tous mes contenus, donc psychologue-montpellier.fr. Et sinon, le lien du centre de formation Zen Pro, hein, dans lequel on anime tous les regroupements du bonheur, ateliers du bonheur, formation. zenproformation.com.
Parfait. Alors, chers auditeurs, Cécile, rendez-vous donc sur le réseau FM+, mercredi 16 octobre. Je pense que je ne me suis pas trompée. Voilà, à 9h pour la deuxième partie de cette émission Itinéraire Santé. Donc, je vous invite aussi à écouter en podcast sur fmplus.org.
Merci
beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.